Et avec Léa Salamé, notre invité ce matin est avocat. Il publie dans la collection Tract de Gallimard un court texte intitulé « Sans la liberté ». Vous pourrez dialoguer avec lui dans 10 minutes environ, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application de France Inter. François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Texte court mais brûlant et brillant sur le recul constant et désormais accéléré de la liberté en France et des libertés. Les libertés publiques, le droit de manifester, le droit d'écrire ce que l'on veut sur Internet, le droit de mal penser. On va y venir en détail. Mais d'abord, essayons de caractériser ce texte. Est-ce un texte de colère, de résignation? Est-ce le texte d'un pessimiste qui a renoncé ou d'un pessimiste qui espère encore?
C'est un texte d'étonnement, en fait. D'abord, la mélancolie est en général mauvaise conseillère, et puis la mélancolie manifeste un manque de vitalité. Et j'essaie de dire ensuite comment une part de ce qui se passe à l'heure actuelle me paraît venir essentiellement d'un manque de vitalité. Donc c'est plutôt un texte optimiste, en réalité, parce que je ne désespère pas de voir ce qui nous caractérise fondamentalement, en tant que Français, en tant qu'Européens et en tant qu'Occidentaux, qui est l'amour de la liberté, au péril de toutes les aventures et de tous les risques, reprendre le dessus après une période marquée par la trouille généralisée et le gris préfectoral. Je pense que c'est profondément quelque chose qui affleure et avec lequel beaucoup plus grand nombre de Français sont d'accord qu'on le dit. Maintenant, c'est sûr que c'est un texte qui vient de l'étonnement d'un homme qui est né 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été élevé dans le souvenir des grands ancêtres, dans l'amour des libertés publiques quand il faisait ses études. Quand j'étais jeune, comme beaucoup de gens de ma génération, j'allais à l'école et je me souviens très très bien. En venant ici, je me souvenais parce qu'il faisait nuit. Voilà. L'hiver, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir quand on sort de l'école. Et puis notre maître, il n'y avait pas de photocopie, avait tapé à la machine un poème et il nous le donnait à commenter sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Et cette génération qui est, vous voyez le poème d'Éluard auquel je fais référence, et cette génération qui est la mienne, 50 ans après, vit dans un pays où le gouvernement peut choisir ses manifestants, un pays où on continue d'enfermer les gens après l'expiration de leur peine, un pays où on censure la pensée, un pays où des juges ont qualité pour dire l'expression et censurer ou non l'expression d'une opinion. Un pays où il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être condamnable, mais simplement d'en avoir l'idée. Rien de tout ça n'était concevable pour quelqu'un de ma génération. Et mon étonnement vient du fait que tout ceci s'est produit dans l'espèce de silence ouaté de la vie administrative auquel nous avons totalement cédé, à laquelle nous avons substitué notre idéal de la société politique elle-même.
On va revenir sur chacune de vos charges, là, ce que vous dites sur la société actuelle. Mais d'abord, vous dites que c'est les combats de ma génération. Pensez-vous que ces combats sont définitivement révolus, au fond que la génération qui a suivi a tourné la page avec légèreté et arrogance? Au fond, votre texte n'est-il pas la nécrologie de la liberté?
Je ne pense pas que ça soit la nécrologie de la liberté, parce que la liberté continue d'affleurer. Je suis frappé d'une chose, c'est que si vous voulez, on parle des codes, on parle des lois. Le problème des lois que je mentionnais, c'est que tant qu'elles ne sont pas mises en application, on ne les voit pas bien advenir. Mais enfin, il reste un réel sensible, un réel qu'on peut toucher. Et par exemple, les policiers en tenue de Goldorak partout. Il y a des spectacles qui, à moi qui étais un peu à l'étranger, me rappellent Sarajevo ou l'Afghanistan ou le pont de Mitrovica. L'autre jour, je traversais la place de la République et je vois, pour encadrer 200 gars qui manifestaient contre la mort d'un jeune à Nantes,
Steve Mayakaniso.
Voilà, 300 gendarmes mobiles ou CRS, pourvus d'une arme qui est le fusil d'assaut de la Bundeswehr, qui tire des balles à la vitesse de 900 mètres secondes avec un calibre de 5,62 mm, 750 coups par minute en rafale ou à coup par coup. Et en voyant ça, qui m'a sauté à la figure, je me suis dit, mais dans quel état vit-on où le gouvernement considère que son propre peuple est un adversaire de type militaire? Et ce sentiment-là, je peux vous le dire, c'était rien, c'était Place de la République, il y a des gens autour de moi, il était partagé de manière sensible par la quasi-totalité des gens avec lesquels je me trouvais.
Oui.
Et ceci me fait penser qu'en réalité, au fond, la liberté dans le sens de la civilité la plus simple n'est pas totalement morte.
Oui, mais le recul de la liberté, François Sureau, et votre livre le démontre, ça se joue à deux. Ça n'est pas que des préfets habillés en gris ou des hommes politiques inconscients. Il y a aussi une demande sociale, parfois, de plus de sécurité, de plus de protection.
De l'homme fort qui remet en cause la démocratie, au fond, voilà. qu'un bon vieux régime autoritaire serait mieux.
Non, mais c'est exactement ce que j'ai essayé de décrire. C'est-à-dire que je pense que face au recul des libertés, il y a plusieurs études qui sont vaines. D'abord, il y en a une qui est dangereuse, qui consiste à dire nous allons faire rempart de notre corps pour éviter la diminution des libertés. Ce dont j'aimerais que tout le monde soit conscient, c'est que nous n'en sommes déjà plus là. La liberté a déjà disparu. Nous sommes déjà dans un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de publier ce que nous voulons, un pays dans lequel nous ne sommes pas totalement libres de manifester, sauf à être contrôlés avant la manifestation par des représentants du parquet. Ça n'est rien. Évidemment, on n'est pas la Turquie, on n'est pas encore l'Égypte de l'effarant Al-Sissi, mais nous sommes déjà dans un pays dans lequel notre idée absolument transcendante de la liberté qui doit céder à tout le reste, cette idée-là a disparu à cause de cet arbitrage entre la liberté et la sécurité. Donc ça, déjà, c'est quelque chose avec quoi il faut rompre. Maintenant, il y a aussi autre chose avec quoi il faut rompre, c'est l'idée d'en accuser le gouvernement. Les gouvernements. Alors, cela dit, malgré tout, c'est vrai que ça répond à une demande sociale. C'est vrai qu'il y a une demande sociale très forte de sécurité, parce que elle est comme ça. Nos régimes ont été fondés sur le fait qu'il fallait garantir les libertés, parce que si on ne les garantissait pas, la demande de sécurité était toujours la plus forte et allait toujours l'emporter. C'est ce qu'explique Hamilton, c'est ce qu'expliquait Jefferson, c'est ce que les constituants pensaient au XVIIIe siècle. Les digues par lesquelles nous maintenions ces libertés ont progressivement sauté dans la période récente. Ce qui me frappe personnellement, c'est que réserve faite de l'horreur des attentats, elles ont sauté alors que nous étions affrontés à des époques bien moins difficiles que celles de nos prédécesseurs. Quand Michel Debré a écrit la Constitution de la Ve République en 1958, il l'a écrit en maintenant les droits de l'autorité judiciaire gardienne des libertés publiques, à l'époque où c'était la guerre d'Algérie, où il y avait 3 attentats par jour, et où des soldats français mouraient au combat. Et c'était Michel Debré, qui n'était pas le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme.
Vous vous reprochez aujourd'hui au gouvernement d'avoir fait rentrer dans le droit commun les mesures d'exception de l'état d'urgence.
Ça va au-delà du gouvernement. Ce qui me frappe, c'est ce qui a disparu, au fond, c'est cette idée de la liberté comme valeur première. Vous savez, Maritain dit très très bien quelque chose dans un texte publié pendant la guerre. Il dit, au fond, il faut regarder attentivement ce que disent les hommes politiques. Quand un homme politique vous dit la liberté, certes, mais la sécurité, oui, ce qu'il vise, c'est la sécurité seulement. Quand un homme politique vous dit la sécurité, certes, mais la liberté, ça veut dire qu'il préfère la liberté. Depuis 30 ans maintenant, nous entendons la liberté, oui, mais la sécurité. Ce qui veut dire la sécurité d'abord. Dans ce mouvement, j'ai vu, comme tous les gens de ma génération d'ailleurs, j'ai vu disparaître la gauche humaniste, celle qui m'avait élevé, celle de Brodin, celle de Badinter. Elle a disparu, on n'entend plus aucune de ses voix. La gauche a été littéralement confisquée par l'option répressive de la droite. Et dans la droite, j'ai vu disparaître, à l'exception de Courson, dont on parlera encore dans les livres d'histoire dans 30 ans, j'ai vu disparaître la droite gaulliste ou démocrate chrétienne issue de la résistance. Et en fait, ceux qui sont ni de droite ni de gauche, la génération à laquelle vous faisiez allusion, ceux qui sont ni de droite ni de gauche, ont rejoint cette espèce de course à l'abîme de manière, pour moi, extrêmement surprenante et, j'ose le dire, décevante.
François Sureau, vous avez des mots très durs contre ce que vous appelez l'effarante loi sur la haine en ligne qui a été adoptée en juillet dernier. En se fondant sur la répression de la haine, je vous cite, la loi introduit désormais la répression pénale à l'intérieur de la conscience. Oui. Expliquez-nous cette phrase et dites-nous quoi alors, s'il faut en prendre son parti, s'habituer à la haine, en ligne, à la chasse en meute, à la violence verbale. Dites-nous pourquoi cette loi est effarante.
Je vais commencer par la
fin. Alors qu'elle a de bonnes intentions, j'imagine.
Je vais commencer par la fin. Et je voudrais dire sur la fin que les intentions sont bonnes, et la plupart des intentions sont bonnes en ce domaine. L'intention de plus de sécurité est bonne, l'intention de réprimer les discours haineux, antisémites, horribles, affreux est bonne, je les partage entièrement. Ce que je pense, en revanche, c'est que la liberté n'existe pas sans les inconvénients de la liberté. Ça, c'est quelque chose que nous avons complètement oublié. La liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté d'être, la liberté d'aller et venir suppose que cette liberté puisse réserve faite de la provocation à la haine raciale ou de la provocation au meurtre individuel. Ceci suppose que la liberté, au fond, puisse blesser, puisse déranger, puisse conduire à l'hostilité, puisse conduire à l'émeute, puisse conduire en réalité au mouvement. Nous ne sommes pas des Aztèques. Notre but n'est pas de fabriquer une société parfaite dans la crainte du déferlement du chaos. Notre but, c'est, ça a toujours été dans l'histoire, c'est ce que Malraux disait quand disait que l'histoire de l'Occident était l'histoire d'une mise en question devenue folle. Notre but, c'est de donner à notre incertitude ontologique, à notre doute sur la meilleure forme politique possible, un mouvement qui, grâce à l'aliment de la liberté, nous permette de progresser dans l'histoire. Tout ce qui conduit à brider ce mouvement, à l'arrêter, à le foutre entre parenthèses, même pour les meilleurs motifs, est quelque chose de dangereux pour
ne pas être eux-mêmes. Et même si le peuple le veut, même si les gens le réclament.
Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous avons une constitution. C'est la raison pour laquelle nous avons une constitution, c'est la raison même pour laquelle nous avons un contrôle de constitutionnalité qui n'est pas fait par des gens élus, parce qu'il existe à l'intérieur de notre être politique quelque chose à quoi même le peuple ne peut pas toucher, le désirerait-il, et qui sont ce que le préambule appelle les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Pourquoi, François Sureau, réclamez-vous le plein exercice du droit de haïr? Est-ce que haïr, c'est un droit de l'homme et du citoyen?
Ah oui, bien sûr. Bien d'abord, je rappelle que quand même, nous sommes devenus extrêmement puceaux avec ces histoires. La République est née de la haine des tyrans. Quand j'entendais au moment des Gilets jaunes, les membres du gouvernement républicain s'étonnaient qu'on ait bousillé une statue de mauvaise facture sous l'Arc de Triomphe, comme si on avait profané quelque chose. Mais la Révolution n'a jamais fait rien d'autre. Dans l'espoir fou du progrès et de l'émancipation individuelle et collective, dans l'espoir de ce que Sartre appelle le salut laïque à la fin des mots, la Révolution a voulu briser les idoles, celles-là comme les autres, les rois à Saint-Denis, comme les statues maintenant, qu'on prétend respecter pour oublier que les gens sont malheureux.
Donc parce c'est, que c'est légitime, ça, pardon, c'est légitime de défoncer une statue à l'Arc de Triomphe, c'est ce que vous dites?
La question n'est pas celle-là. La question est qu'il n'est certainement pas légitime et ça doit être puni une fois que c'est fait. Mais la construction d'un ordre répressif a priori qui empêche tout risque de cette nature, cette construction-là, elle est blâmable parce qu'elle ne correspond pas à ce qui est le mouvement même de la République.
Et puis vous dites qu'on ne veut plus voir que le mal existe en chacun de nous,
oui.
Qu'on en a peur, oui. Et qu'on cherche donc par des constructions juridiques, des lois, des droits, à oublier ça.
Mais je crois que la question fondamentale, elle est là. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Au fond, nous vivons sous deux choses. Qu'il faut que ce phénomène que je décris, c'est pas un phénomène auquel doit répondre la simple indignation, mais la réflexion, parce que ce phénomène a deux causes extrêmement profondes et qui sont des causes anthropologiquement difficiles à discerner. La première cause, d'abord, c'est que depuis la mort de Dieu, si je puis dire, et puis depuis la mort aussi des religions séculières politiques, comme disait Aron, qui a succédé à l'idée du salut collectif dans le divin, au fond, nous nous sommes fait une idée de la perfection de l'homme. Tout ce qui blesse la perfection de l'homme doit être réprimé. La perfection de chaque homme. Alors, ce qui blesse la perfection de votre être physique doit conduire à ceci. Ce qui blesse la perfection de votre désir d'avoir tel ou tel enfant dans telle ou telle configuration doit être réprimé. Ce qui blesse vos options par l'émission de l'option des autres doit être réprimé. Et donc, nous vivons dans le rêve d'une société de la perfection individuelle. Ce rêve provoque une société de la peur. Une société de la peur où chacun a peur pour la perfection de sa propre vie que tous les journaux, tout le monde lui présente sans cesse comme quelque chose de désirable. Cette peur génère à son tour une organisation sociale et collective de la peur. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que depuis 20 ou 30 ans, l'ensemble de la société s'organise pour faire advenir cette organisation collective de la peur et non pas, d'une certaine manière, un encadrement, si je puis dire, d'une société de l'aventure. Cette peur est interne, mais c'est aussi une peur extérieure. Regardez par exemple l'Égypte, qui est un pays auquel je suis très attaché. Ce qui se passe en Égypte en ce moment est exactement de la même nature. L'organisation de la peur nous dégrade, nous, en tant que Français, par la diminution de la liberté. L'organisation de la peur nous conduit à vendre des rafales à un gouvernement abject qui fait le malheur de son peuple et qui, en ce moment, emprisonne des avocats par milliers pour simplement parce que nous pensons que c'est un rempart contre l'islamisme. Cette organisation de la peur nous dégrade dedans, elle nous dégrade dehors.
Vous dites on a remplacé l'idéal de liberté par le culte des droits, on mélange la liberté et les droits. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, en réalité, c'est quoi l'idée du XVIIIe siècle? J'y tiens beaucoup, au fond. Je vais faire sursauter, évidemment, tous les historiens qui nous écoutent, mais j'ai toujours eu l'impression qu'avant le XVIIIe siècle, nous vivons dans les meilleures intentions du monde, y compris celle du salut, dans une société de la peur, et que la grandeur du 18e est de nous avoir libérés de ça. Nous sommes en train de faire mouvement, à l'heure actuelle, vers mouvement arrière, vers à nouveau une société de l'archaïsme et de la peur, et notamment une société qui mélange sans cesse la morale et la norme. C'est devenu presque notre caractéristique. Et donc, la liberté du 18e siècle, c'est quoi? Ça n'est pas le droit pour chacun de faire ce qu'il veut, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que cette liberté est limitée par celle des autres. La liberté, au sens du 18e, c'est la liberté de privilégier partout, Bernanos le dit très bien, le sentiment que chaque citoyen a de la liberté d'autrui. C'est ça le sentiment de la fraternité politique. S'il n'y a pas de ça, il n'y a pas de société politique. Il y a simplement des hommes ou des groupes qui réclament à l'État de faire respecter ses droits
au détriment du droit des autres.
Mais c'est ce qui se passe
aujourd'hui. Absolument. Chaque minorité réclame son droit.
C'est ce qui se passe et c'est ce qui signe la mort de la société politique. À la fin, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que nous n'aurons plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons absolument plus rien qui nous rassemble. Nous n'aurons plus cet idéal de la société politique et du progrès vers une société meilleure. Et nous n'aurons plus que le culte de la nature.
Et quand
c'est ce que nous voyons sous nos yeux se développer. Et on finit comme Fabre d'Églantine, hein, celui qui avait écrit « Il pleut bergère » et qui finit à la Convention nationale par faire couper des têtes au nom des grands principes.
Et quand il n'y a plus de politique, François Sureau, on prend ce que vous appelez un Viagra administratif et hop, ça repart.
Alors la question de l'administration est très compliquée parce que en réalité cette organisation, si vous voulez, de la société de la peur à laquelle on assiste depuis 20 ans, en fait se déroule de manière assez classique sous la 5e République, se déroule sous l'injonction et l'impulsion administrative. Je suis très frappé de voir que cette disparition du politique, parce que c'est ça le politique, c'est en fait la réflexion permanente sur la construction de la société de liberté. S'il s'agit simplement de la construction de la société néo-chinoise, de la crainte du chaos, n'importe quel fonctionnaire y suffit, et c'est la raison pour laquelle nous observons à l'heure actuelle la prédominance des fonctionnaires dans les décisions gouvernementales. Alors le fonctionnaire, il est compliqué, parce que d'un côté, il faut, d'une certaine manière, doper les bonnes idées par la création de la commission Tartemolle, et là, c'est le Viagra administratif, puis à d'autres moments, le peuple est un peu inquiétant, donc il faut lui coller de grandes doses de bromure, et là, on s'en tire avec des discours délifiants, et nous sommes sans arrêt balancé entre l'un et l'autre.
La libido bureaucratique.
La libido bureaucratique nous gouverne.
Nous gouverne. Avant de donner la parole au standard, quelques questions sur l'application de France Inter. Monsieur Sureau, dit Rémi, quel est votre rôle? D'où parlez-vous? Pourquoi ne vous engagez-vous pas en politique? Le ministère de la parole est une fonction facile.
Eh ben écoutez, je trouve que c'est une fonction facile, mais je trouve que c'est une fonction qui est très très peu tenue, parce que en ce moment, je trouve qu'on est plutôt 4 ou 5 que 3 ou 4 millions, et j'invite d'une certaine manière notre camarade Rémi
à nous
rejoindre et à parler, parce que les gens qui veulent exercer du pouvoir sur les autres, ils sont extrêmement nombreux, et à la fin, c'est ça dont il est question dans les activités gouvernementales. Mais les gens qui ne souhaitent pas exercer du pouvoir sur les autres et qui souhaitent simplement rappeler que ce qui compte, c'est ce qui compte pour nous en tant que citoyens, en tant que simples citoyens, en tant que citoyens qui ne gouvernent pas, est quelque chose d'absolument éminent. Eh bien, je trouve que plutôt cela devrait plutôt se grouper ensemble plutôt que de rêver d'être ministre.
Toujours sur l'application Inter, pour répondre plus rapidement, Paul vous demande pouvez-vous nous dire quelles mesures vous prendriez face à la violence et à l'impunité des Black Blocs? Merci, ajoute-t-il.
Oui, bah c'est très simple, il existe un code pénal. Le fait qu'on le change pratiquement une fois par an depuis 15 ans en pure perte, alors que c'est un des codes pénaux les plus répressifs de l'espace européen, permet de répondre à la question, les Black Blocs, eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on sait qu'une manifestation peut être dangereuse, et depuis 1930 en France, on a la possibilité de l'interdire, mais non pas de contrôler individuellement les manifestants qui, eux, ne sont pas des Black Blocs et qui voudraient y participer, ce qu'a fait la loi anti-casseurs. Ou bien on ne l'interdit pas et on casse, on chope les gens et on les fourre au ballon. Ça s'appelle le code pénal, ça existe comme ça, pratiquement depuis l'ancien code d'instruction criminelle. Il suffit de le respecter.
Dernière question sur l'application d'Inter. Pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont également victimes de ce recul des libertés et d'une justice aux ordres de l'Élysée?
Alors là, pour le coup, je ne le pense pas du tout, parce que ça demanderait un long développement. Je pense que, si vous voulez, les amateurs, les défenseurs des libertés dont je suis en général, préfèrent les juges au pouvoir politique. Et naturellement, je préfère que les juges soient indépendants du pouvoir politique, parce que c'est une question de séparation des pouvoirs. Maintenant, c'est vrai qu'un certain problème se pose quand les juges paraissent animés, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime avec les parlements, avec le mécanisme des remontrances par exemple. Ça pose un certain problème quand les juges sont animés d'une certaine manière, d'une sorte d'hubris propre qui les porte à incarner la morale, ce qui me paraît quelque chose d'extrêmement régressif et d'extrêmement dangereux. Un système normatif démocratique est un système dans lequel le droit n'est pas censé se mélanger avec la morale. J'étais très frappé, naguère pour le procès Carignan, hier pour le procès Balkany, de voir l'extraordinaire dimension morale des juges. Je pense que sous ce rapport, l'investissement moral du juge est quelque chose qui peut menacer la démocratie politique, mais certainement pas en réalité sa soumission au pouvoir.
Vous diriez que dans la condamnation de Patrick Balkany, les juges étaient trop soumis à l'opinion publique ?
Peut-être pas nécessairement à l'opinion publique, mais à la conception qu'ils se font de leur moralité propre.
François Sureau, Emmanuel Macron a décidé d'organiser un débat sur l'immigration lundi à l'Assemblée nationale. Il appelle sa majorité, je cite, à regarder en face la question de l'immigration pour ne pas être un parti de bourgeois, parce que les bourgeois ne voient pas l'immigration alors que les classes populaires vivent avec. Vous qui êtes un bourgeois, est-ce que vous vous sentez pointé du doigt par le président de la République ?
Ah, je me sens pointé du doigt avec plaisir à chaque fois qu'un homme politique, fût-il le plus éminent, a qualifié ses opposants de bourgeois. C'était plutôt un honneur à leur faire, en particulier dès lors qu'il est question de défense des valeurs humanistes et de la liberté. Donc je porterai plutôt ça comme une décoration. Maintenant, je n'y attache pas une extrême importance. Nous sommes là dans une figure absolument classique du ballet politique de la Ve République, où alors qu'il n'y a pas spécialement d'attentats islamistes ou de problèmes communautaires, pour des raisons probablement électorales, la décision est prise d'organiser un débat sur l'immigration en le liant au problème d'identité nationale et au problème de l'islam, et au problème de terrorisme, ce qui est quand même assez extraordinaire, puisque s'il existe des problèmes, ils ne sont pas nécessairement liés à l'immigration d'aujourd'hui, mais plutôt à l'immigration d'avant-hier, et sauf à trier les Français entre ceux qui sont devenus Français il y a une génération et ceux qui le sont devenus il y a trois générations, on est là à affronter un problème réel. Je referme cette parenthèse. Il y a donc ce discours qui obéit à quelque chose, et à la fin, tout le monde sait comment ça va se terminer.
Comment ?
Il existe, dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, le chef de bureau Tartemolle, au bureau B4 de la sous-direction 12, qui est le même fonctionnaire dont on se sert à la fois depuis Monsieur Sarkozy, pour rédiger les trois petits bouts de texte qui ne serviront à rien, mais qui permettent de donner l'impression que l'on fait quelque chose. Et donc, nous assistons ainsi à une figure qui rappelle, à la xénophobie latente près, celle des Indes galantes de Rameau, en version désagréable, où il y a d'un côté le grand débat parlementaire, et de l'autre, le sous-chef de bureau qui va tripatouiller l'application de la circulaire 4 pour donner l'impression que la législation devient raisonnablement xénophobe.
Vous avez l'impression que le macronisme est en train de devenir un sarkozisme ?
Je pense que c'est au-delà de ça. Je pense qu'il existe dans le domaine des libertés publiques, je pense qu'il existe un fort courant qui unit les deux, qui est un courant que je déplore. Je ne le déplore pas seulement pour des raisons qui me paraissent tenir à l'idée que je me fais de l'honneur national, en quelque sorte. Je le déplore aussi parce qu'il est totalement inefficace. Parce que, par exemple, l'une de ses applications était la loi Collomb sur l'immigration et l'asile, qui a démontré qu'elle était un ratage complet.
Vous êtes proche d'Emmanuel Macron, de l'homme Emmanuel Macron, vous le dites vous-même. Est-ce qu'il vous écoute parfois ou il en a marre du colonel Ronchon, pour prendre votre expression que vous nous avez sortie? Vous vous êtes vous-même affublé de ce terme-là la dernière fois que vous êtes venu. Est-ce qu'il vous écoute parfois, Emmanuel Macron?
Je n'en sais rien. Il paraît qu'il en a assez du colonel Ronchon, en réalité. Je vais essayer de me rajeunir un peu pour dire des choses qui seraient plus susceptibles d'être entendues. On n'en sait rien. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que ces questions ne lui sont pas indifférentes, même sous le mode de l'hostilité. Vous voyez, il y a des gens qui n'écoutent pas du tout. Et même sous le mode de l'hostilité, de la discussion ou de l'échange des idées, ces questions ne sont pas indifférentes. Je ne vais évidemment pas raconter les discussions que j'ai eues à l'occasion de la loi anti-casseurs, à laquelle j'étais très opposé, et sur laquelle il a fini par saisir le Conseil constitutionnel. C'est pas de mon fait, hein. Mais nous avons eu un débat, et il y avait un débat. Et au fond, je suis tout prêt à me satisfaire qu'il ait encore un débat.
Le lanceur d'alerte Edward Snowden a demandé au micro de France Inter l'asile à Emmanuel Macron. Qu'il dépose un dossier comme tout le monde a été en substance la réponse qui lui a été faite. La France doit-elle accueillir Snowden ?
Eh bien, j'en sais rien. Enfin, moi personnellement, je pense plutôt que oui, naturellement. Mais je trouve que, pour le coup, la réponse d'Emmanuel Macron est la bonne. Nous avons une tradition de l'asile. Il faut continuer d'être sérieux avec ce qui fonde notre tradition nationale. Nous avons une tradition de l'asile. La tradition de l'asile, c'est que c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement, c'est pas le président, c'est pas le ministre qui décide si Monsieur Snowden doit avoir l'asile. C'est un organisme qui est soumis au juge, à la Cour nationale du droit d'asile, dans lequel Monsieur Snowden vient, explique ce qu'il a fait, explique ce qu'il risque. Parce que c'est très important, le risque effectif de persécution. Vous voyez bien que le risque effectif de persécution n'est pas absolument le même s'il s'agit d'un ressortissant américain ou d'un ressortissant iranien. Tout ceci est présenté, et à la fin, quelqu'un d'indépendant dit si Monsieur Snowden doit avoir l'asile ou pas. Personnellement, c'est pas très médiatique, mais je trouve ça absolument grandiose, ça nous fait honneur, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut maintenir.
D'un mot, vous pouvez nous dire ce que vous avez contre le projet d'immatriculation des bicyclettes? C'est l'un des points les plus brûlants de votre livre.
Ah oui, non, mais je trouve ça, non, mais si vous voulez, ça fait partie des choses, ça fait partie des multiples petites choses qui s'accumulent, parce que je vous ai parlé des trucs très sérieux, les lanceurs de balles de défense, les mutilations, l'interdiction de manifester, la loi Avia, et puis vous avez tout le climat de ça. Vous avez le fait que, par exemple, quand je vais allumer ma pipe dans 30 secondes dans ce studio, tout va sonner.
Vous savez que vous n'avez pas le droit d'allumer votre pipe.
Voilà, exactement, je n'ai pas le droit.
Vous allez allumer votre pipe.
Bah, je vais vous raconter une histoire qui va exactement vous... Le père de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, est dans un compartiment de chemin de fer. Il est dans un compartiment de chemin de fer en Écosse. Il y a là un type qui baisse son pantalon et qui défèque. Une puanteur épouvantable se répand dans le compartiment. Le père de C.S. Lewis allume sa pipe et tout le monde lui tombe dessus en lui disant « Vous ne pouvez pas fumer ». Eh ben, le monde moderne, c'est ça. Y compris pour l'immatriculation des vélos.
Vive la liberté. Merci beaucoup, François Sureau, d'avoir été au micro d'Inter. C'est une fois encore un très grand plaisir de dialoguer avec vous et de vous lire « Sans la liberté », collection Tract chez Gallimard. Merci encore. Et n'allumez pas cette pipe dans le studio, s'il vous plaît.
Sinon, c'est notre faute. Allez.
Je voulais qu'on récite ensemble le préambule de la déclaration, mais ça sera pour une autre fois.
Avec plaisir.
Vous reviendrez.
8h40. 48.